Festival Les Créatives.
Résistance aux antibiotiques, c'est la bombe à retardement sanitaire du 21e siècle.
C'est important que cette antibiothérapie large spectre soit réévaluée quotidiennement.
Ces problèmes de résistance aux antibiotiques que l'on observe en médecine humaine sont à 95% un problème humain et pas du tout un problème animal.
Deuxième raison, c'est justement d'utiliser ces anciennes molécules pour protéger les molécules plus récentes développées plus récemment.
Certaines bactéries au sein d'un groupe de bactéries vont développer une stratégie d'évitement.
Les antibiotiques restent aujourd'hui le pilier du traitement des infections bactériennes. Il n'y a pas d'autre approche à disposition de routine.
Parmi les bactéries tueuses, effectivement, certaines sont résistantes, voire multirésistantes.
Si on n'a pas d'antibiotiques, on va retourner dans les années 1940. C'est-à-dire avec une médecine sans réanimation, avec une médecine sans chirurgie lourde et sans greffe.
Ces extraits de diverses émissions de CQFD vous le rappellent, hein, bactéries et antibiotiques se livrent une guerre sans merci. Les bactéries ont de belles défenses naturelles et de plus, elles sont capables de développer une résistance aux attaques, notamment des antibiotiques. Sylvie Dolzan, on va décrire les forces en présence et tenter de comprendre les tactiques qu'elles utilisent.
Et nous allons y aller pas à pas, en commençant par expliquer ce qu'est une bactérie, puis un antibiotique, en détaillant ensuite comment le second attaque la première et comment celle-ci se défend, et enfin, en essayant de déterminer s'il y aura un vainqueur final dans cette guerre d'usure.
Et on va le faire avec vous, Gilbert Grubb, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien, vous êtes bactériologiste, directeur de l'Institut de microbiologie, médecin-chef des laboratoires de microbiologie diagnostique du CHUV. Alors si on commence par le début, qu'est-ce qu'une une bactérie? C'est quoi? C'est un être vivant avec une cellule, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est un être vivant microscopique, une seule cellule. Et en fait, ils sont tellement petits qu'il a fallu l'invention du microscope par Anton von il y a longtemps, donc, et pour pouvoir voir les premières petites bactéries. À l'époque, ça s'appelait des animalcules, ce qui signifie un peu animaux minuscules. Voilà. Et on a les bactéries depuis très longtemps. Donc l'évolution, nous on a évolué, mais les bactéries ont aussi évolué, donc il y a une grande diversité de bactéries.
Donc c'est un être vivant, au même titre que les deux autres représentants du vivant, qu'on appelle d'abord les archées, c'est des cousines peu plus antiques que les bactéries, mais des cousines des bactéries qui vivent dans des milieux assez hostiles. Puis il y a les eucaryotes, soit nous, les plantes, les animaux, etc., etc. En revanche, Gilbert Grubb, les virus ne sont pas toujours considérés comme faisant partie du vivant. Pourquoi?
Oui, en fait, ils sont considérés par certains comme n'étant pas vivants parce qu'ils n'ont pas de vie autonome. Finalement, ils sont constitués d'un brin d'ADN ou d'ARN qui sont capables d'être répliqués dans des cellules, mais ils ont besoin de cellules. Donc ça peut être ou bien les archées, des archéovirus, les bactéries, les bactériophages, ou bien les autres êtres vivants, dont nous. Et à ce moment-là, c'est les virus classiques.
Alors, bactéries, et puis si on prend une cellule de notre corps, c'est quoi qui les différencie?
Alors, il y a beaucoup de différences. La première, c'est que les noyaux sont différents. On a un noyau classique bien organisé chez nous, alors que les bactéries n'ont pas de noyau. On appelle ça des procaryotes, noyaux primitifs. Ils n'ont pas d'organelles non plus. On a les mitochondries ou les chloroplastes chez les chloroplastes chez les plantes, les mitochondries chez nous et chez les autres organismes eucaryotes. Et en fait, ça n'existe pas, puisqu'en fait, ces organelles sont à l'origine des microbes, des bactéries qui ont été internalisées et rendues à l'esclavage. Il y a des choses qui diffèrent aussi en plus, ça veut dire que les bactéries ont une paroi faite de sucre et de petits peptides, on appelle ça le peptidoglycan, et cette paroi, comme elle existe que chez les bactéries, sont une bonne cible pour les antibiotiques. Enfin, on a des machines pour la traduction des protéines qu'on appelle les ribosomes, et là aussi ils sont différents, ce qui nous permet de nouveau d'avoir une cible. Donc en fait, on a compris, c'est très important cette différence, parce ça nous permet d'avoir des choses sur lesquelles on peut se baser pour développer des antibiotiques qui ne vont pas nous gêner trop.
C'est ça, elles vont pas, les antibiotiques ne vont pas s'attaquer à nos cellules, mais vont s'attaquer aux bactéries. On va y revenir sur cette guerre justement et ces attaques dans un instant. Elles se multiplient comment les bactéries?
Alors effectivement, c'est une autre différence. Les bactéries ont tendance à se multiplier très rapidement. Donc par exemple, Escherichia coli peut se diviser toutes les 20 minutes. Nous, ça prend plus de temps. Et puis, elles se divisent simplement par fission binaire. Et puis cette division des cellules est aussi différente entre les bactéries et les eucaryotes, les bactéries utilisant un analogue de la tubuline qui polymérise et qui nous permet de séparer les cellules, alors que chez nous, c'est un analogue de l'actine, une autre molécule qui polymérise également. Donc il y a des différences. Après, il y a des exceptions. Nous avons découvert dans notre groupe que chez les chlamydia, une bactérie, justement, l'actine est utilisée. Donc des fois, les dogmes tombent et c'est l'exception qui confirme la règle.
Ils peuvent tomber justement avec l'évolution. Évolution, vous l'avez dit, il y en a eu une importante chez les bactéries comme chez nous. Maintenant, il y a énormément d'espèces. On sait combien il y en a.
C'est difficile de savoir puisqu'il y a des découvertes régulières, donc on trouve toujours de nouvelles bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui ne sont pas cultivables, donc une grande proportion sont découvertes actuellement grâce au séquençage haut débit. Et donc on parle de microbial dark matter, donc la matière sombre qu'on ne connaît pas. Et ces nouvelles techniques de séquençage, l'analyse de la diversité des microbes par ces nouvelles techniques nous permet de découvrir la face cachée finalement de cette matière.
Oui, la matière noire microbiologique, comme quoi le tout petit peut rejoindre le tout, l'immense en fait. Alors, beaucoup de ces bactéries, elles nous sont utiles. On a plein dans notre corps, dans notre intestin notamment, ce qu'on appelle le microbiote. Bon, elles jouent énormément de rôles qu'on connaît, mais il y en a certaines qui, en revanche, elles sont dites, qui ne nous font pas du tout du bien, qui sont dites pathogènes. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, ça signifie qu'elles ont la capacité de générer une souffrance dans nos organes, des lésions des organes. Pathos, ça veut dire la souffrance. Et en fait, on différencie les lésions qui sont dues directement aux outils que la bactérie a, ce qu'on appelle des facteurs de virulence, qui vont induire finalement de la virulence, et puis les facteurs de l'hôte. Donc là, pathogénicité, la capacité à générer la souffrance dépend des deux. Donc une bactérie peu méchante, pas trop virulente, pourrait être dangereuse chez quelqu'un d'affaibli, avec des défenses diminuées.
Alors, ces bactéries, est-ce qu'elles ont, on parlait d'évolution, elles ont toujours été pathogènes pour les eucaryotes, nous en particulier?
Alors, il y a un certain nombre de bactéries qui sont gentilles, qu'on a par exemple dans notre tube digestif, et puis lorsque tout à coup, il y a une brèche au niveau de l'intestin, par exemple, on fait une appendicite, ou il y a une brèche due à un cancer ou quelque chose, à ce moment-là, ces bactéries qui sont gentilles dans notre tube digestif se retrouvent dans la cavité du péritoine et peuvent causer une infection grave qui est la péritonite. Donc, on a toujours cette dichotomie. On a des bactéries gentilles sur la peau, le jour où on se blesse, ces bactéries peuvent entrer, nous faire un abcès. Donc, elles peuvent effectivement être dangereuses dans certaines situations.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles avaient pas mal d'armes à disposition hein, pour être pathogènes, mais comment ça fonctionne? Comment elles font pour nous faire mal? C'est un processus chimique, j'imagine, oui.
Alors, elles ne sont pas toutes identiques. Il y en a certaines qui ont des enzymes, donc processus chimique, qui vont permettre de liser des composants qu'on a dans notre corps. Par exemple, certaines bactéries vont pouvoir se disséminer en lisant les lipides grâce à une lipase, en lisant le tissu conjonctif, donc grâce à une hyaluronidase, etc., donc ces enzymes. D'autres, au contraire, ont des toxines, donc facteurs toxiques, et d'autres vont générer de l'inflammation extrêmement importante. Donc, c'est pas la bactérie à ce moment-là qui fait les lésions, mais c'est nos défenses immunitaires qui vont surréagir et faire des lésions.
Alors, vous parlez des défenses immunitaires. Justement, notre corps ne parvient pas à se défendre tout seul contre ces envahisseurs, ces bactéries, ces méchantes bactéries.
Alors, parfois, le corps arrive à se défendre et à les éliminer ou à au moins les canaliser. Si on prend l'exemple d'une maladie qui fait peur, la tuberculose, qui est une maladie chronique, on a un certain nombre de personnes qui vont s'infecter et qui vont contrôler l'infection au niveau des ganglions sans faire les symptômes, sans devenir malade. Et donc, il y aura un délai. Et environ 5% des gens infectés, au cours de leur vie, vont développer la maladie. Bien sûr, si vous avez des défenses immunitaires diminuées, à ce moment-là, ces 5% vont s'accroître à peut-être 5% chaque année.
Bactéries et antibiotiques, la guerre des tranchées, c'est notre dossier du jour aujourd'hui dans CQFD. Donc, voilà, on vient de comprendre un peu le monde des bactéries et notamment celui des méchantes bactéries pour les appeler comme ça. Ça veut dire que contre elles, on est contraint d'utiliser des antibiotiques, ce qui nous permet d'ouvrir donc effectivement ce deuxième chapitre de la discussion avec vous, Gilbert Grubb. Je rappelle que vous êtes bactériologiste. Le premier antibiotique, c'était lequel et c'était quand?
Alors, en 1928, Fleming a visualisé un champignon qui empêchait la croissance de bactéries. Et donc, il a eu le concept qu'on pourrait utiliser ça pour inhiber la croissance des bactéries. Par la suite, il a fallu attendre 1940 pour que cette d'antibiotiques, la pénicilline, soit synthétisée par Florey et Chain, qui ont d'ailleurs eu le prix Nobel, puisqu'on parle ces jours du prix Nobel. Donc Florey, Chain et Fleming, ensemble, ont eu le prix Nobel. Et puis, par la suite, c'est en 1944 que cet antibiotique a été utilisé, et en 1945, ils ont eu le prix Nobel ensemble.
Et de quoi est-ce fait, justement, un antibiotique ?
On parlait de champignons, mais ce n'est pas tous des champignons, j'imagine.
Non, effectivement, il y a des antibiotiques qui peuvent être synthétisés par des bactéries, et certaines bactéries ont des outils pour lutter contre d'autres, qui leur permettent peut-être de garder une place écologique. Donc, les bactéries ou les champignons peuvent créer et synthétiser ça naturellement. Ça. Puis ensuite, nos biochimistes peuvent inventer des nouvelles molécules ou par synthèse directe ou en modifiant les molécules naturelles.
Alors, on parle de classes d'antibiotiques. Hein. Il y en a en gros actuellement 14 utilisées en médecine, enfin en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces classes d'antibiotiques ? C'est leur mode d'action, la façon dont ils attaquent la bactérie ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment le mode d'action qui les différencie. Et donc, pour chaque type d'antibiotique, on a un mode d'action différent. Et donc, si l'on va un petit peu plus loin, si on développait une résistance à un antibiotique d'une classe, le risque qu'on développe aussi la résistance aux autres de cette classe est grande.
D'accord. Ouais. On va prendre juste deux exemples, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Deux exemples parmi ces classes. On a d'abord celle qu'on appelle les quinolones. Elles s'attaquent à l'ADN de la bactérie, directement.
Oui. Donc l'ADN est le support génétique de l'information chez les bactéries. C'est extrêmement long. Et donc, pour le condenser, il faut l'enrouler. Et donc, naturellement, il y aura cette capacité de se surenrouler et de se désenrouler pour être finalement répliqué. Si on veut répliquer l'ADN, on doit le désenrouler. Donc il y a des enzymes qui font ça, et les quinolones vont agir sur ces enzymes.
D'accord, donc ça évite que la bactérie se développe, même ça peut la tuer, quoi, en l'occurrence.
Ouais. Oui, tout à fait.
D'accord, puis on va prendre un autre exemple, allez, par exemple les polymyxines, hein, eux ils s'attaquent à quelle partie de la bactérie ?
Alors ils s'attaquent à la membrane cellulaire, donc les polymyxines attaquent seulement certains types de bactéries, donc ce qu'on appelle les gram-négatifs, qui ont une membrane externe.
Comment choisit-on justement d'utiliser un antibiotique plutôt qu'un autre, Gilbert Grubb ?
Alors, ça dépendra déjà quelle est la maladie touchée, quel est l'organe touché. On saura que pour, par exemple, une pneumonie, les pathogènes fréquents sont ceux-ci, et sur cette base, on aura un traitement empirique. Mais par la suite, on peut choisir réellement l'antibiotique si l'on connaît le microbe en cause, et surtout si on connaît sa sensibilité aux antibiotiques. Donc ça, c'est extrêmement important pour cibler le traitement. Après, il y a d'autres raisons qui nous font choisir le traitement. Par exemple, quelqu'un est allergique à un antibiotique, il faudra qu'on ait une alternative. Quelqu'un est enfant, il y a certains antibiotiques qu'on ne peut pas utiliser chez les enfants ou chez les femmes enceintes, ou par exemple chez des personnes qui ont une insuffisance rénale, qui sont dialysées, on devra peut-être choisir des antibiotiques différents en fonction de ces situations.
Alors, on va évoquer la résistance dans un instant, mais est-ce qu'on peut déjà dire dans l'absolu que, dans le fond, les antibiotiques ont un bon taux d'efficacité ?
Oui, tout à fait. En général, on a un bon taux d'efficacité. C'est pas toujours de 100% parce qu'il y a des facteurs, des complications qui peuvent survenir qui font qu'on peut, suivant les infections, ne pas avoir toujours 100% de succès, mais effectivement, les antibiotiques sont très efficaces pour traiter les infections bactériennes.
Alors, vous parliez d'un choix pour cibler le traitement. Or, il y a des antibiotiques qu'on appelle à large spectre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les antibiotiques à large spectre peuvent être efficaces sur toute une série d'espèces bactériennes. Alors qu'un antibiotique plus spécifique, ciblé, va être efficace peut-être que sur quelques espèces. Donc, d'une manière générale, on essaye d'utiliser les spectres les plus étroits pour faire de l'épargne d'antibiotiques, pour éviter d'abuser de l'utilisation des antibiotiques.
Donc, cibler au maximum.
Cibler au maximum. Et pour ça, c'est essentiel qu'il y ait les laboratoires diagnostiques qui permettent de savoir quel est le microbe en cause et quelle est sa sensibilité aux antibiotiques. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, il y a des résistances. Donc, c'est pas le nom du microbe antibiotique utilisé, mais aussi sa sensibilité.
Justement, l'utilisation de ces antibiotiques à large spectre est controversée parce qu'elle peut amener des multirésistances, justement.
Oui, donc le risque, c'est de sélectionner les bactéries résistantes. En fait, la résistance existait déjà par le passé, puisque déjà, on a fait une étude dans le lac Léman, dans les sédiments, et on a bien pu montrer qu'il y avait déjà de la résistance avant 1930, avant la découverte des antibiotiques. On le savait déjà, puisque c'est les microbes eux-mêmes qui ont inventé ça depuis longtemps. Donc, là, le problème, c'est qu'il faut éviter de sélectionner les germes résistants, parce que, du coup, le risque que c'est justement les bactéries résistantes qui causent l'infection s'accroît.
La résistance et les éventuels moyens de la dépasser, c'est donc la troisième partie maintenant de notre dossier du jour. Gilles Bergrum, qu'est-ce que c'est finalement justement cette résistance ?
Alors, le fait que les bactéries n'arrivent plus à se multiplier en présence d'un antibiotique ou le fait qu'elles arrêtent de se multiplier, éventuellement qu'elles soient lysées par l'antibiotique.
Bah ça, c'est pas de la résistance.
Non, c'est l'inverse, oui. Donc, la résistance, c'est la capacité d'éviter les effets des antibiotiques.
Voilà. Donc, en fait, elles vont continuer à réussir à se multiplier,
exactement,
etc. Alors qu'il y a l'antibiotique qui essaie de les freiner et paf, elles sont plus fortes, quoi.
Oui, elles dépassent.
Mais on parlait d'évolution tout à l'heure. J'aime bien l'évolution. L'évolution est un processus, on le sait, qui est long. Pourtant, les antibiotiques, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'on les utilise. Donc, elles ont une capacité d'adaptation hyper rapide, les bactéries.
Alors, d'une part, elles ont la capacité de s'adapter rapidement puisque tous les 20 minutes elles se divisent pour certaines, mais d'autre part la résistance est déjà préexistante. On sait que la résistance préexiste auparavant. Donc dès le moment où vous mettez des antibiotiques, c'est pas forcément que vous induisez plus de résistance, des mutations, etc. Mais en plus vous sélectionnez des germes résistants. Donc il y a les deux facteurs.
Ouais, d'accord.
Avec la plupart des bactéries qui ont développé une résistance à une classe d'antibiotiques, mais certaines effectivement à plusieurs, et ça évidemment ça devient dangereux.
Oui, donc quand une bactérie est résistante à plusieurs antibiotiques, ça devient difficile d'avoir un traitement efficace pour un patient, ce d'autant si ce patient a d'autres situations qui empêchent l'utilisation de certains antibiotiques, comme les allergies ou d'autres choses.
Est-ce qu'il serait possible d'améliorer les antibiotiques actuels pour qu'ils finalement réussissent à tromper, à leurrer la résistance des bactéries ?
Oui, c'est quelque chose qui est fait depuis pas mal de temps, c'est presque une fuite en avant. Par exemple, pour les dérivés pénicillines, on a eu les céphalosporines de première génération, deuxième génération, puis troisième et quatrième génération. Et le problème, c'est que quand on a trouvé la quatrième génération, on était très heureux, mais aujourd'hui, on a des résistances aussi à ces quatrièmes générations. Donc, les bactéries ont toujours la possibilité d'évoluer. Pour certains antibiotiques, il suffit d'une seule mutation. Par exemple, les quinolones, on en a parlé avant, une seule mutation suffit à conférer une résistance. Donc, ça peut évoluer vite. Et donc, entre la recherche et les bactéries, c'est souvent les bactéries qui vont plus vite. En plus, de trouver des nouvelles cibles, ce n'est pas évident parce qu'on a discuté des quelques différences entre eucaryotes et les bactéries. Il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est la traduction des protéines, la translation de l'ARN, la réplication de l'ADN. Donc, les choses essentielles à la vie des bactéries. Et finalement, une fois qu'on a abusé de l'antibiotique, induit des résistances dans ces cibles, on n'a plus ces cibles.
Alors effectivement, on cherche des nouvelles voies, hein, amélioration des antibiotiques actuels. On a même exploré, ça revient un tout petit peu une autre voie, soit l'utilisation de virus, hein, de ces fameux phages qui s'attaquent aux bactéries. Et vous, Gilles Bergreux, vous travaillez justement, vous êtes un de ces nombreux chercheurs qui travaillent sur des solutions novatrices, lesquelles ?
Alors, il y a différents aspects. D'une part, essayer de trouver des nouveaux antibiotiques. Et donc là, nous, on s'était posé la question si on pourrait avoir des antivirulences plutôt que des antibiotiques. Du coup, on ne sélectionnerait pas la bactérie, mais plutôt sa virulence. Une autre cible, c'était un peu par hasard, un peu comme Fleming à l'époque, un collègue a découvert, en travaillant sur des substances anticancéreuse, une molécule qui avait un effet antibactérien puisqu'il avait contaminé la culture cellulaire et on a vu que cette molécule marchait très bien sur le staphylocoque. Donc du coup, on travaille sur ce peptide antimicrobien et sur d'autres peptides antimicrobiens. Mais une chose que je pense aussi qui est très importante, c'est de travailler sur les tests diagnostiques pour mieux cibler les traitements. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. On est, par exemple, en train d'explorer un outil qui est une mesure de la nanomotion. Ça veut dire les mouvements nanométriques des bactéries. Vraiment, c'est des tout petits mouvements. Et donc, les bactéries qui ne bougent plus seraient dites sensibles à l'antibiotique, alors que si elles continuent à bouger, c'est qu'elles sont indifférentes. Et plutôt que de devoir attendre qu'elles se multiplient, attendre plusieurs heures pour voir si elles poussent ou si elles ne poussent pas en présence d'antibiotiques, là, on peut avoir une réponse courte, ce qui nous permet de mieux ajuster les traitements.
Donc pour terminer, pour revenir à cette idée de guerre, de tranchée entre bactéries et antibiotiques, pour les années à venir, qu'est-ce qu'on fait comme pari ? C'est les bactéries qui vont gagner ou ce sont les antibiotiques ?
Alors c'est difficile de prévoir l'avenir. On pourrait citer Antoine Saint-Exupéry qui dit que l'avenir, tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre. Donc en fait, je pense que si on veut avoir une chance contre les bactéries, il faut qu'on se le permette et qu'on fasse de la recherche. Et pour ça, il faut qu'on agisse, il faut qu'on essaie de diminuer l'utilisation exagérée d'antibiotiques, qu'on fasse des prescriptions adéquates d'antibiotiques. Par exemple, éviter l'utilisation des antibiotiques pour des angines virales, mais les utiliser que quand il y a des infections dues aux bactéries. Faire de la prévention des infections, c'est ce que fait les services d'hygiène, par exemple, dans les hôpitaux, pour diminuer la consommation des antibiotiques et aussi pour limiter la transmission des germes multirésistants, d'améliorer les outils diagnostiques, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos laboratoires, et puis globalement développer des nouveaux antibiotiques également. Donc toute une série de mesures qui sont à faire.
Gilles Bergreux, merci beaucoup, directeur de l'Institut de microbiologie et médecin-chef des laboratoires de microbiologie et diagnostic du CHUV. Invitation de Silvio Dolzan, merci également à vous, Silvio.
Volontiers.
Notez que nous n'avons volontairement pas évoqué les effets secondaires des antibiotiques, et il y en a. C'est tout un chapitre en soi, on y revient d'ailleurs dans 10 jours, le lundi 21 octobre, avec le témoignage d'un homme à qui les antibios n'ont clairement pas réussi, vous l'entendrez. Tout autre chose, dans un instant, Virginie Langeroc, vous nous parlez d'Homo sapiens.
Voilà, Homo sapiens, on le sait, il est apparu en Afrique. Une exposition nous donne l'occasion d'en savoir plus. Ça se passe en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et je vous y emmène dans un instant.
10h41 sur la première.